Bonjour, c'est Poser, le podcast mensuel de mise à disposition des savoirs de Tel Quel, l'agence universitaire de francophonie et Economia, le centre de recherche HEM. Le nom est monumental, la référence incontournable. Pierre Bourdieu a laissé une œuvre qui a changé les sciences humaines. C'est au point que le grand public fait parfois du Bourdieu sans le savoir, mais pas toujours très bien. Sa démarche va commencer dans un contexte particulier qui sera déterminant, celui de la guerre d'Algérie. Les guerres décoloniales ont traumatisé une génération de Français, appelés sous les drapeaux à faire des choses qui ne leur plaisaient pas forcément. La censure régnait, l'opposition était bâillonnée. Il reste peu de traces de leurs premiers effets sur une jeunesse dont la contestation trouvera son apogée en mai 1968. Rare exception, le Festival de Cannes décerne sa Palme d'Or en 1964 à Jacques Demy. Celui-ci a usé du charme discret de Catherine Deneuve pour mettre en chanson un drame de la conscription dans les parapluies de Cherbourg.
Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, je ne reviendrai pas d'ici longtemps.
Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi.
Presque 10 ans auparavant, le jeune Bourdieu, à la barbe de ses officiers, étudie en Algérie les camps de regroupement et leurs effets sur la population kabyle. Étonnamment, ou pas, il y reconnaît bien des traits de son milieu d'origine, la paysannerie du Béarn. Les liens qu'il établit marquent durablement le domaine de la sociologie et portent bien au-delà, jusqu'au féminisme par exemple. Mais trop souvent, certains lui font dire ce qu'il n'a jamais dit, voire l'exact contraire de son propos. Pour Bourdieu, la science de la sociologie revient à définir ou à trouver les régularités dans les comportements, à noter les invariants. Mais en aucun cas, il ne considère l'individu humain comme prisonnier à vie des déterminismes sociaux que ses travaux mettent au jour. Son propos est du côté de l'émancipation. Il faut étudier ses liens pour s'en libérer. Faire du terrain d'abord. Et cela l'amène à affronter le politique, y compris ses amis, qui tendent à se dispenser de l'observation pour vouloir plier le réel à des idées préconçues. L'analyse vaudra pour le journalisme. Pour en parler avec nous, Tassadit Yassine est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS, et membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Dominique Marchetti est sociologue, directeur de recherche au CNRS, affecté au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, qui fut fondé par Bourdieu. Tous deux nous répondent par téléphone. Prenons le temps d'écouter un peu de leur savoir, et puis, insistez Marchetti hors micro, celui d'aller lire Bourdieu dans le texte. En 1954, Boris Vian écrit pour Mouloudji une chanson qui sera interdite et aussi un hymne mondial de ralliement pacifiste. Il interprétera lui-même un an plus tard le Déserteur.
Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire.
Tassadit Yassine, quand Bourdieu commence sa carrière en Algérie, donc c'est un contexte très particulier, c'est sur fond de guerre d'Algérie, il va avoir à travailler sur la Kabylie et juste après il va travailler sur le Béarn et lui fait un lien entre les deux régions. Donc le Béarn, région à côté du Pays Basque en France, il trouve des ressemblances avec ce qui se passe dans la Kabylie, ce qui pourrait paraître contre-intuitif à nos contemporains qui ne connaissent pas bien son travail.
Oui, bah, écoutez, quand Bourdieu donc commence en Algérie, mais je vais très très rapidement. Donc quand il commence à travailler sur la Kabylie proprement dite, c'est en fait à la fin de son service militaire, quand il est à l'université d'Alger. Alors, donc pendant ces enquêtes, les populations qui vont se sauver des montagnes qui sont des zones interdites, qui sont attaquées, au quotidien, il va y avoir un exode rural, donc les gens qui vont se tasser dans les villes, dans les bidonvilles exactement, et puis les gens qu'on va regrouper, c'est-à-dire qu'on va les déporter dans des grands camps de regroupement. Et c'est là qu'il va voir, si vous voulez, un changement entre les gens qui sont restés dans la montagne et les gens que l'on va, comme il dit lui, le changement pathologique, c'est-à-dire que l'armée va essayer de changer les gens du jour au lendemain, donc à d'autres formes de vie, à d'autres formes, enfin si je peux revenir, je reviens, à d'autres formes, de voir le temps, de voir l'espace. Donc tout ça est complètement chamboulé. Et donc pour lui, donc la Kabylie est une région paysanne, il vient lui-même d'une région paysanne qui est le Béarn, et le Béarn commence à changer après 45, donc il y a des changements qui sont introduits. Avant et après 45, ce n'est plus la même chose. Le Béarn change avec la mécanisation. Il va y avoir une division qui n'existait pas avant et des changements dans le mode de vie. Donc, il va y avoir un changement de la société. Et ce changement-là, il le comprendra à l'aune de la militarisation de l'Algérie. Donc, c'est comme ça qu'il va comprendre la Kabylie grâce à ce qu'était le Béarn avant 45 et après 45. Et c'est comme ça aussi qu'il va comprendre le Béarn à partir de la Kabylie. C'est-à-dire qu'il va se projeter, y compris dans le temps, voyez, et pour que ça devienne ce qu'il a écrit d'ailleurs donc, en 62. On va le retrouver réécrit, je ne me souviens plus si c'est en 89, le bal des célibataires ou la reproduction interdite. C'est-à-dire qu'on va évoluer dans ces sociétés du bain jusqu'à presque sa disparition, puisque le système béarnais d'avant ne va plus exister comme il était grâce justement à un changement sans effet, je dis bien sans effet volontaire. Alors que la Kabylie, l'effet donc était volontaire, voulu donc par l'armée. Donc vous voyez, c'est ça et c'est ça qu'il va constater. Bien entendu, ça c'est grosso modo, mais après dans la pratique, ce qui va l'intéresser, bien entendu, c'est le rapport de genre. Le rapport de genre, et c'est ça qui va le conduire après à son travail sur la domination masculine, et ben comment justement la société produit du féminin et du masculin qui sont à peu près dans toute la Méditerranée, on retrouve à peu près les mêmes schèmes dans toute la Méditerranée, vous voyez. Donc c'est ça qui va l'inciter à aller de l'avant, donc à comprendre le Béarn à partir de la Méditerranée, à partir de la Kabylie, et la Kabylie à partir du Béarn, en considérant que c'est un foyer culturel très important, comme il l'appelle, un laboratoire qui a conservé les règles, oui, au niveau du genre, mais pas simplement. Donc, encore une fois, la conception de l'espace, la conception du temps, qui sont donc très imprégnées de culture hellénique.
Dominique Marchetti, Bourdieu a beaucoup parlé de la domination sociale, et notamment dans le cadre colonial, ainsi que de la reproduction, de la réplication des classes sociales. Comment vous pourriez nous expliquer ça en quelques mots ?
Et disons que, en fait, Bourdieu a été rapidement, c'était plutôt un philosophe de formation. Et en fait, il s'est converti à l'ethnologie, à l'anthropologie, dans un contexte de guerre, celui de la guerre d'Algérie, puisqu'il a été donc envoyé au service militaire, comme beaucoup de ces de jeunes Français de l'époque. Et il s'est retrouvé donc dans un poste où en fait, il faisait des études. Pour les autorités coloniales, et très rapidement il a travaillé sur cette domination, alors qu'il connaissait de fait par sa trajectoire personnelle, puisque c'est un enfant du Béarn, du sud-ouest de la France, fils d'un postier. Bon, sa mère était d'un rang un peu plus élevé, mais disons que comme il a été d'abord à Pau et puis ensuite surtout à Paris, déjà il a vécu des formes de domination très fortes. Alors bon, qui sont bien évidemment pas comparables à la situation de guerre en Algérie, mais disons que la domination sociale, il l'a vécu très rapidement en internat, au lycée, et ensuite il l'a vu aussi très directement en Algérie, et sous sa forme la plus violente, la domination coloniale, avec notamment les camps de regroupement sur lesquels il a travaillé, avec un ensemble de collègues qui étaient à peu près dans la même position que lui.
De ça, de cette expérience-là, il a pu déterminer un concept qui fonctionne de façon plus large, qui est celui de la domination sociale et de la reproduction aussi.
le concept de reproduction, par exemple, où le concept même de domination est toujours un peu simplifié par les commentateurs, ou en tout cas certains d'entre eux. Donc voilà, c'est un concept qu'il a travaillé et surtout qu'il a montré à travers des enquêtes empiriques, et je voudrais peut-être insister là-dessus, c'est-à-dire que le travail de Pierre Bourdieu et aussi de beaucoup d'autres chercheurs, c'est pas un travail, comment dire, en chambre, entre guillemets, ou dans un bureau, mais la plupart de ces concepts ont été forgés à partir d'enquêtes empiriques. C'est un constat sociologique, la domination. C'est pas une prise de position politique comme souvent on le dit. C'est-à-dire qu'il le montre par des enquêtes et par voilà. Et tous ces concepts viennent de ces enquêtes, contrairement à beaucoup d'autres comment dire chercheurs qui comment dire théorisent, conceptualisent, mais sans vraiment s'appuyer sur des enquêtes empiriques, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire du travail de terrain. Hein. C'est un peu, enfin, je vais un peu vite, mais c'est un peu comme un éditorialiste qui, parle tous les jours de façon très générale à partir de son bureau. Et puis voilà un journaliste de terrain qui est spécialisé, qui connaît bien son terrain, qui fait ses enquêtes. Ben voilà, je caricature un peu, mais il y a un peu de ça.
Tassadet Yassine, il me semble qu'il avait conceptualisé et théorisé la différence entre son travail de chercheur sur le terrain et à son bureau et celui de ses interventions dans la cité, dans la vie publique, à travers les médias par exemple.
Oui.
Peut-être un petit mot rapide sur sa notion d'intervention.
Très, très rapidement, là aussi, il y a une histoire, il y a une genèse. Donc Bourdieu, quand il avait 20 ans ou 25 ans, déjà il y avait les guerres, les problèmes de décolonisation. Et déjà à l'époque, il était à la fois contre les communistes et contre les socialistes. Pourquoi ? Parce que il trouvait que le monde social était tellement compliqué qu'on ne pouvait pas, si vous voulez, avec des mots uniquement, avec un discours, changer le monde. Or, pour changer le monde, il faut partir du terrain. Il faut partir de la connaissance de la société. Et donc en Algérie, c'est ça. L'attachement aux politiques de Bourdieu vient de là. Non pas à partir de position, non pas à partir de parti, hein, mais à partir de comment fournir des outils pour comprendre le monde, et ces outils doivent servir le politique. Donc c'est toute sa recherche, si vous voulez, sur l'école, sur les médias, sur les classes populaires, donc souvenez-vous la misère du monde, qui a permis à un moment donné aux chercheurs du Collège de France, c'est-à-dire en ayant tous les outils nécessaires, tous ces outils-là vont servir justement à déconstruire les politiques. Et c'est pour ça, c'est comme ça, si vous voulez, qu'il est passé, oui, bien sûr, à être l'intellectuel de la cité, parce que la cité avait besoin de l'intellectuel.
Le documentaire de Pierre Carle, « La sociologie est un sport de combat », sort en 2001, un an avant la disparition du scientifique. La dernière scène le montre discutant avec des animateurs sociaux dans une banlieue française. L'échange est vif et franc, il les avertit, déjà, des dangers de l'anti-intellectualisme.
Le mouvement ouvrier français a crevé d'anti-intellectualisme. Le mouvement ouvrier français a été fondé sur une espèce d'ouvriérisme qui autorisait les dirigeants à être bêtes et à demander la bêtise au nom de la discipline de parti.
Tassadet Yassine. Un des concepts phares de ce qu'a mis en évidence Pierre Bourdieu, ça a été la question de la domination masculine. Vous venez de nous dire qu'il a pu voir que les rapports de genre en Kabylie, comme dans le Béarn, étaient très proches, évidemment peut-être pas tout à fait identiques, oui. Mais il y avait quelque chose de très proche, qui avait, vous dites, une racine hellénique commune. Mais en quoi l'outil, sa conceptualisation de la domination masculine a une importance dans la pensée sociologique et au-delà ?
Il y a des exemples précis qui sont les mêmes. Par exemple, bon, chez les Kabyles, mais pas seulement chez les Kabyles, ça dépasse, c'est toute l'Afrique du Nord, quand on dit quand une fille naît, c'est presque la catastrophe, on est triste, vous voyez ? Et les Béarnais disent « la poutre maîtresse pleure », donc on retrouve à peu près les mêmes choses. Par exemple, au niveau de la maison, au niveau de la maison Kabyle, je ne sais pas si vous avez parcouru ça, ben vous allez voir que toute la maison Kabyle, il y a toute une division à la fois réelle mais aussi symbolique. Tout, elle est, c'est en masculin féminin. Vous voyez, l'apôtre maîtresse féminine, il y a l'apôtre masculine. C'est-à-dire que les murs parlent, la langue parle, elle parle en masculin et en féminin. C'est toute, disons que c'est une division à la fois. C'est une division, si vous voulez, à la fois sociale, mais c'est aussi un principe de division fondamentale du monde social et du monde symbolique. On voit le monde en masculin et féminin. Le masculin est une mesure. C'est une c'est le modèle humain entre guillemets. Hein, et bien sûr, je mets des guillemets achevé. Et donc, et aussi bien en arabe qu'en berbère d'ailleurs, c'est très très important. On dit terugza ou rujla. Ils ont conçu un concept pour désigner la masculinité. Donc c'est quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui prédomine, c'est quelque chose que l'on loue, aussi bien du côté des hommes que du côté des femmes. Mais ce qu'il va apporter par rapport aux études sur le genre ou aux femmes, si vous voulez, c'est ce qu'il va appeler la violence symbolique. La domination symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire, la domination symbolique ? C'est-à-dire que, eh bien, le masculin et le féminin sont socialement construits. C'est-à-dire que, historiquement, bien entendu qu'il reconnaît que le patriarcat n'est pas anhistorique, le patriarcat est, si vous voulez, est historiquement connu, enfin connu, oui, il a une histoire. Et comment est-ce que cette domination va perdurer, va se transmettre? Et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, comme on peut se débarrasser, je n'en sais rien, moi, d'autres formes de lutte où il y a une organisation, où on peut se constituer encore, on va dire, bon voilà, on va lutter contre le colonialisme, on va lutter contre le patronat, mais pour la domination masculine, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'on a intériorisé les schèmes de domination. Non, ce sont des schèmes de domination, mais qui sont donc, c'est cette inégalité acceptée, intériorisé, incorporé, qui existe aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc voilà. Alors donc pour Pierre Bourdieu, bien évidemment, c'est très difficile. Encore une fois, je vous le disais par rapport à la maison kabyle est à la fois une vision en l'avant, mais c'est aussi une division. Le monde est divisé en masculin et en féminin. La langue elle-même, tout ce qui est petit est féminin, tout ce qui est grand est masculin. Le diminutif est féminin, l'augmentatif est masculin. Et donc cette division des sexes, elle est visible, elle est acceptée, elle est transmise, elle est donc intériorisée. Et c'est pour ça que, selon Bourdieu, il est difficile donc de ne pas accorder à cette violence symbolique toute sa place, la violence donc de la domination masculine. On en fait une culture, on en fait un ordre, et justement, elle est d'autant plus difficile à combattre, parce que elle fait cette vision du monde sexué, elle s'inscrit dans nos habitudes. L'habitude donc va former partie des conduites ordinaires, en les rendant automatiques. La violence symbolique, c'est donc la capacité des structures de domination. Qu'est-ce qui va se passer ? Ces structures de domination vont faire méconnaître l'arbitraire, c'est-à-dire que ce qui est inégal, ce qui est arbitraire, va devenir quelque chose de culturel et de symbolique. Quand on connaît, quand on a pris conscience du mode de fonctionnement, eh bien on essaye de s'en débarrasser. Et jusque-là, justement, qu'est-ce qui a fait que la domination masculine perdure ? C'est quand même grâce à l'éducation, les familles, grâce à l'école. Donc l'école, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi dans ma jeunesse, on portait un tablier rose et on devait s'habiller comme ça, manger comme ça, marcher comme ça. C'est ce qu'on appelait la tenue à la retenue pour les femmes. Et bien entendu, il y a les religions qui vont consacrer et légitimer encore plus. Et donc c'est pour ça que ça a perduré tout ce temps. Et pour s'en débarrasser, justement, il faut en prendre conscience, il faut que l'école, la société, les religions participent donc de cette, mise à l'écart, je veux dire, de la domination masculine, et qu'ils l'aperçoivent comme domination et non pas du tout comme culture et comme allant de soi.
Dominique Marchetti, je voulais vous interroger sur ce qui a peut-être rendu le plus célèbre Pierre Bourdieu pour les non-spécialistes et les non-sociologues, c'est ce qu'il a pu dire de l'école, hein, ce qui est en lien avec ce que nous disions tout à l'heure sur la reproduction sociale, c'est-à-dire qu'il avait choqué la République française en expliquant, vous me corrigerez, je résume le cliché qui arrive dans le grand public et les journalistes comme moi, en expliquant que l'école républicaine était une machine qui servait plus la reproduction sociale que l'émancipation générale de la population. Et il avait dit, je crois, en lien, il y avait peut-être les notions de capital culturel qui est différencié du capital financier. Alors je ne sais pas si dans le peu de temps que nous avons, on pourra évoquer un peu tout ça.
Oui, tout à fait. Disons que voilà, les héritiers et la reproduction, voilà, ce sont deux ouvrages qui montre que voilà, il y a des phénomènes de reproduction sociale, mais justement un des apports, comme vous le soulignez justement, c'est de montrer que c'est pas seulement des inégalités économiques qui expliquent les inégalités scolaires, bien évidemment c'est une partie de l'explication, mais il y a aussi le capital culturel, c'est-à-dire que grosso modo, ce que dit Bourdieu, et il va le développer un peu plus à la fin des années 70 dans un livre qui s'appelle La Distinction, mais il va montrer que toutes les cultures ne se valent pas socialement, c'est-à-dire qu'il y a des cultures plus légitimes que d'autres.
Alors les cultures à l'intérieur d'un même pays, hein.
Exactement, oui, oui. Et d'ailleurs elles peuvent varier d'un pays à l'autre, hein, ça il faut peut-être le préciser. Et donc il y a une bonne culture. Et la bonne culture, c'est souvent la culture scolaire, c'est-à-dire celle des groupes sociaux dominants. Et cette culture, ce qui est particulier, notamment par rapport au capital économique, c'est-à-dire à la richesse qu'on voit très concrètement, c'est que là, l'acquis se donne un peu à voir comme de l'inné, c'est-à-dire elle est un peu invisible. Et ce qui montre, c'est que cette culture légitime, finalement, elle a des fonctions conservatrices, c'est-à-dire que elle reproduit l'ordre social et que, bien évidemment, l'école républicaine, au lieu de lutter contre ces inégalités, contribue à les reproduire. L'un des meilleurs exemples, c'est la réussite, par exemple, des enfants d'enseignants, par exemple, à l'école. Hein. Mmh. Voilà, c'est un exemple simple, qui est un peu simpliste peut-être, mais qui montre comment voilà, ce capital culturel est très important dans la fonction reproductrice de l'école. Après, on peut bien évidemment développer sur le capital culturel. Il y a un capital culturel qui est qui est objectivé, c'est-à-dire qu'on voit matériellement, hein, c'est les livres, c'est les tableaux, etc. Mais encore faut-il les comprendre, les déchiffrer. Donc voilà, c'est un type de capital culturel qui se traduit dans les biens matériels, mais surtout le capital culturel, il est permanent, à l'état vivant chez les gens, qui font que certains vont trouver des individus plutôt cultivés ou en tout cas avec une culture légitime, tandis que d'autres vont avoir une culture plutôt légitime. Alors je vais peut-être caricaturer là aussi, mais disons que on voit bien la différence, les hiérarchies qui existent, les hiérarchies sociales. Entre, je sais pas, la musique classique et le rap, par exemple. Enfin voilà, c'est une opposition assez simple, mais qui dit bien que voilà, d'un côté il y a une culture légitime, de l'autre une culture illégitime. On pourrait reproduire ça aussi dans les pages des journaux, par exemple, qui fait qu'en France, par exemple, voilà, les pages internationales, les pages politiques sont de la culture légitime. Par contre, le sport, et c'est pas vrai dans d'autres pays, hein, est totalement illégitime et quasiment absent des grands quotidiens ou des grands news magazines français. Voilà un exemple un peu concret du poids de ce capital culturel qui se transmet donc bien évidemment par une socialisation familiale, par l'école, et voilà, c'est ça que pointe un peu Bourdieu, et c'est un des apports de ses travaux sur les questions des fonctions de conservatrices de l'école, en tout cas telles qu'elles fonctionnent ici en France. Hein.
Et il avait un mot d'ailleurs aussi sur la langue, sur le vocabulaire et sur l'accent, parce que lui-même avait l'accent du Sud quand il était jeune, et je crois qu'il témoignait d'avoir longuement lutté contre son propre accent, et que du coup l'accent du Sud, donc l'accent de chez lui, lui était devenu insupportable. Il racontait ça avec une pointe d'humour.
Oui, c'est tout à fait juste, et c'est vrai que il le cite dans le documentaire de Pierre Carl, sur le voilà, qui supporte pas son accent, qui a travaillé son accent, et l'un des exemples, je trouve, les plus visibles en France, en tout cas, mais bien sûr on le retrouve dans d'autres pays, c'est que en France les accents régionaux prononcés, bien évidemment, tout particulièrement celui du sud de la France, ou les accents des suds de la France, parce qu'ils varient, eh bien, ils sont quasiment absents des médias. C'est-à-dire que le seul lieu, peut-être, où vous trouvez un accent du sud de la France, dans les médias nationaux français, c'est quand il est question de rugby, justement. C'est-à-dire du sud-ouest de la France. Autrement, ces accents étaient complètement gommés. Mais vous pouvez lire des choses assez comparables en Grande-Bretagne, où là aussi, la BBC, quand on écoute la BBC, alors bon, j'ai bien sûr pas tous les codes, mais en tout cas, il y a des articles sociologiques qui montrent comment ces accents disparaissent. Et c'est pareil dans l'université. Hein, je citerai qu'un exemple. Récemment, dans une université proche à Paris, a été recruté un collègue qui a un fort accent du Sud-Ouest. Et dans les discussions qui étaient dans ce comité de sélection, on voyait bien que ça chahutait pas mal de mes collègues, peu habitués, parce que ici, voilà, à Paris, il y a une espèce d'homogénéisation. Et là, on est au cœur de ce que raconte Bourdieu, justement, de la domination et de la reproduction scolaire. Et c'est un très bon exemple, je trouve, que vous prenez. Mais au Maroc, vous le savez très bien aussi, oui. L'accent arabe, voilà, immédiatement, va être... Bon, en Turquie, c'est le turc et des montagnes, hein, c'est le kurde qui parle turc. Vous voyez, enfin voilà, on pourrait le transposer dans nombre de pays.
En 1964... Le cinéaste George Cukor porte à l'écran une comédie musicale inspirée d'une pièce anglaise de 1914. Deux éminents linguistes font le pari d'éduquer une fleuriste trouvée sur le pavé de Londres afin de la faire passer pour une lady lors d'une réception officielle. Tout repose sur la stratification sociale des accents britanniques que la pétillante Audrey Hepburn doit apprendre à maîtriser lors de fastidieux exercices de diction. C'est le classique « My Fair Lady ».
Again.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
I think she's got it. I think she's got it.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
By George, she's got it. By George, she's got it.
Tassadet Yassine, il y a eu beaucoup de malentendus, voire de faux procès faits à l'encontre de Pierre Bourdieu. Quand il parle de déterminismes sociaux, il dit bien que pointer ces déterminismes sociaux peut permettre de s'en libérer. Donc lui, il est du côté
exactement
de l'espoir, et il est du côté, pour reprendre les termes du malentendu, il est du côté du libre-arbitre. Il dit, si on connaît ces déterminismes, on peut s'en libérer, mais si on ne les connaît pas, on en reste prisonnier.
Mais tout à fait, mais c'est exactement ce qui est valable, parce que là on arrive à comprendre par exemple tout le travail qui se fait sur le monde ouvrier, sur d'autres, mais on n'arrive pas à comprendre justement toute la sociologie de Bourdieu, c'est de montrer ce qui est caché, ce qu'on donne comme allant de soi et qui ne va pas de soi. Par exemple, voilà, vous avez cité ça, par exemple pour l'école, ben pour l'école justement, tout son travail sur l'école avec Passeron, c'était de montrer que l'école qui passe pour égalitariste, en fait, elle favorise les inégalités dans la mesure où elle ne prend pas en compte les inégalités réelles. Les inégalités réelles, ce n'est pas simplement d'inscrire son enfant à l'école, mais de voir tout ce que les enfants défavorisés n'ont pas, c'est-à-dire la culture qui va avec, c'est-à-dire le capital économique, le capital symbolique, le capital culturel. Et donc, quand on n'a pas de capital culturel, eh bien, on ne peut pas suivre. Et donc, c'est pas simplement du déterminisme, c'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils ne peuvent pas réussir, c'est parce qu'on ne leur donne pas les moyens, l'école ne leur fournit pas les moyens de réussir, ou bien elle ferme les yeux sur ce qui fait que certains réussissent. Donc, c'est cette boucle qui se referme. on ne peut pas, on n'a pas les différents capitaux pour pouvoir avoir, être au niveau, si vous voulez, requis. Et ne pas avoir ces capitaux-là, ça veut dire échouer et ça veut dire, en fait, retourner à sa propre classe sociale, vous voyez. Donc, il ne dit pas que les pauvres sont pauvres et qu'ils doivent rester pauvres. Et qu'il... Non, il dit simplement qu'on n'arrive pas à donner les mêmes instruments, les mêmes outils de réussite, les mêmes, la même connaissance intellectuelle, culturelle, sociale, parce qu'il parle en fait les quatre espèces de capitaux, eh bien, les classes défavorisées ne les ont pas. Donc, c'est, donc on les met en concours avec des gens qui ne sont pas du niveau. Pareil pour la langue, les classes aisées parlent une langue qui est proche de celle de l'école, de l'éducation scolaire, alors que les classes dominées, quelles qu'elles soient, que ce soit la province, que ce soit le monde ouvrier, eh bien, ils n'ont pas justement les outils linguistiques, ne serait-ce que pour comprendre la classe. Vous voyez, donc ce sont ceux-là. Et Bourdieu ne dit pas que le déterminisme, il n'y a que du déterminisme. Il dit simplement que, eh bien, il faut connaître les raisons pour lesquelles, eh bien, il y a des inégalités sociales.
Dominique Marchetti. Sur la question des savoirs et médias, Pierre Bourdieu a eu des mots très durs sur ce qu'il a appelé les demi-savants qui monopolisent les médias, et il disait ça, enfin il écrivait ça d'ailleurs notamment à propos de la question de l'immigration, et il dénonçait des demi-savants et des sous-philosophes qui racontaient n'importe quoi, qui n'avaient rien à voir avec le terrain que lui avait pu faire. Et est-ce que vous pourriez nous en dire un mot de ce rapport entre savoir et médias?
Je pense que vous posez bien les choses, c'est-à-dire que les journalistes, mais là aussi, bon, j'aime pas bien ce mot parce que il est trop général, mais disons que les journalistes et les sociologues, pour aller vite, mais aussi les politistes, les économistes, en fait, sont en concurrence de fait pour dire, expliquer le monde social. Donc, Pierre Bourdieu, je pense, a fait ce livre sur la télévision parce que c'était moins de parler, je pense, des médias, de la télévision, mais plutôt des effets que certains d'entre eux produisaient sur le champ intellectuel. Et il avait fait un papier quelques années avant déjà, sur la manière dont les médias essayaient d'imposer une hiérarchie des intellectuels. Donc il avait fait un petit papier sur un palmarès des intellectuels français. Et voilà, ce qu'il contestait, c'est que les médias imposaient des critères externes au champ scientifique, mais tout particulièrement au champ sociologique, au champ des sciences sociales, qui est beaucoup plus faible, hein, bien évidemment, que, je sais pas, celui des mathématiciens. C'est-à-dire que les journalistes ne vont pas aller discuter, donner des leçons de mathématiques. Par contre, quand on est sur le terrain des problèmes sociaux, eh bien, il est plus facile d'avoir des avis. Et du coup, ce qu'ils contestaient, c'est ces critères externes qu'introduisent les médias et des formes de consécration, hein, qui peuvent être, pour aller vite, hein, c'est-à-dire la consécration sur le fait que on est plus dans des consécrations commerciales, c'est-à-dire de regarder ceux qui vendent, par exemple, hein, les intellectuels entre guillemets qui vendent, plutôt que ceux qui font un travail plus de terrain, d'enquête, etc. Bon, je caricature un petit peu, mais...
Oui, on dit les bons clients chez nous. Ceux dont on sait qu'ils vont faire de l'audience, on les invite en priorité, oui.
Voilà, c'est un peu ça, et c'est vrai que, moi, par exemple, j'avais travaillé sur les médecins qui intervenaient dans les médias dans les années 50, 60, 70, jusqu'au début des années 80. Les médecins qui intervenaient dans les médias, par exemple, c'était les médecins les plus consacrés par l'institution médicale. Alors, c'est pas de dire c'est bien ou c'est mal, mais c'était un constat. C'est-à-dire, c'était les plus consacrés par leur père. Je pense qu'aujourd'hui, y compris dans un univers quand même médical qui est censé être très réglé, on peut pas dire que, on peut dire que ça a un peu changé. Hein, donc, et on l'a vu avec le Covid. Donc voilà, pour les sociologues, bien évidemment, c'est encore plus flagrant. Voilà. Et donc, ce qu'ils reprochaient, c'est voilà que on donnait de la place à la fois à ces fast thinkers, ces demi-savants, comme ils les appellent, mais aussi que ces demi-savants imposent leurs problématiques, et notamment ça a des effets sur l'univers politique. Hein, et donc, ça a pas simplement des effets sur les médias, mais ça a aussi des effets sur les politiques publiques, par exemple, ou les manières de penser certains problèmes. Hein. Et donc, voilà, on le voit tous les jours, c'est pas la peine d'insister. Voilà.
Merci à Tassadit Yassine de l'EHESS et à Dominique Marchetti du CNRS pour leur participation à cet épisode de Poser. Merci enfin à toute l'équipe de production, Fatima Azara Belasri, Hamad Skali et Lumna Elmachi. Vous pouvez vous abonner gratuitement à ce podcast sur les plateformes d'Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify, ou l'écouter sur les sites telquel.ma, de l'AUF et d'Economia.